talmudique. On apprend très tôt le nom de son pays et en particulier de sa ville, surtout quand on est fils de rabbin comme je le suis. Cela fait partie de l'identité. Ainsi, longtemps avant de décliner mon nom, je disais « je suis le fils du rabbin de Reims, puis de Lille, puis de Metz, puis de Marseille ». Fierté de cette noblesse à particules qui était souvent écornée par des questions toujours surprenantes. « Waknin, c'est russe ? Un cousin des Bakounine ? Ah bon, c'est marocain, berbère en plus ?» À quoi je répondais « oui, tous les noms en Wa sont berbères, Wanounou, Walid ou Walt Disney, ça faisait toujours rire ». Fils de rabbin, cela signifie aussi une grande fréquentation de la synagogue où je me rendais plusieurs fois par semaine et, bien évidemment, le vendredi soir et le samedi à l'occasion du Shabbat. À Lille, la synagogue se trouvait rue Auguste Angelier, à côté de la faculté des lettres, et pour y arriver, de la rue où nous habitions, il fallait prendre la rue Jean Bar. J'ai très vite appris à connaître la vie de ce héros des mers, ce corsaire de Dunkerque patenté par le roi de France, Louis XIV, ce corsaire dont le nom du premier bateau dont il fut le commandant se nommait, à ma grande surprise, le roi David. À cet âge de l'adolescence, où l'on rêve d'aventures et de pays lointains, Jean Bar donnait des ailes à un imaginaire maritime que consolidait la lecture chaque semaine dans le journal pilote des aventures de Barbe Rouge, une série intitulée « Le démon des Caraïbes » dans un scénario de Charlier et dessiné par Hubinon. Ah, Barbe Rouge, Baba, Eric et Triple Patte, un quatuor tragicomique que Goscinny immortalisa par la suite dans Astérix et le Petit Nicolas et que l'on retrouve dans une filiation qui serait trop longue de citer entièrement. Mais dès que la porte de la synagogue se refermait derrière moi, Jean Bar, Barbe Rouge et ses amis disparaissaient et le bruissement du vent dans les voiles, le bruit des canons et du croisement des sabres étaient remplacés par le chant des psaumes et du Lechadodi qui accueille la fiancée du Shabbat. Pourquoi Rabbi Akiva et Barbe Rouge ne faisaient-ils pas équipe? Pourquoi l'histoire juive évoquait le soleil de la Méditerranée et des pays qui l'abordent, le shtetl et les voyages en diligence dans la neige de Russie, la vie de commentateurs vignerons, de philosophes médecins, de rabbins astronomes, de talmudistes commerçants, de banquiers, de savants, de tailleurs et de colporteurs, d'enseignants, de chercheurs, d'inventeurs, de forgerons et d'orfèvres? Mais jamais de pirates, jamais de corsaires, ni de boucaniers, ni de flibustiers. La question restait très longtemps en suspens, n'affaiblissant pas mon intérêt pour ces héros de mon enfance, m'intéressant particulièrement depuis aux histoires de bateaux que je trouvais dans le Talmud et ayant une attirance singulière pour le livre de Jonas et l'histoire de Noé. Aussi, je me suis réjoui que la boussole de Jack Sparrow dans « Pirates des Caraïbes » n'indique pas le nord, mais seulement le chemin de la chose la plus désirée, rappelant cette phrase attribuée à Rabbi Nachman de Bratslav « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourras pas t'égarer ». Tout comme je me réjouis de la lecture des chapitres de Don Quichotte racontant des histoires de captifs rachetés aux pirates et dont tout laissait à penser qu'il était question de juifs maranes. Mais la question continue à me travailler. Pourquoi Rabbi Akiva et Barbe Rouge ne faisaient-ils donc pas équipe? Pourquoi les juifs semblaient absents de ce monde des aventures maritimes? Pourquoi cette absence dans la construction de l'imaginaire universel auquel les pirates semblaient appartenir? Je m'arrête ici dans mon récit car, à la vérité, tout ne s'est pas passé comme je viens de le raconter. Tous ces souvenirs sont un cadeau, car s'ils m'habitaient certainement, enfouis très profondément en moi-même, je les avais totalement oubliés. Ces souvenirs surgirent à l'occasion d'un autre cadeau que me fit une amie très chère, en me mettant entre les mains un livre d'Edouard Kritzler intitulé « Les pirates juifs des Caraïbes », un best-seller édité aux États-Unis en 2008, puis édité dans une traduction française d'Alexandra Léniel-Lavastine, d'abord chez André Versailles, éditeur en 2012, et qui vient d'être réédité aux éditions de l'Éclat. Lis ça, tu vas voir, c'est absolument passionnant et important. Comme dit Proust, et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Jean Bar, la synagogue, le journal pilote et Barbe Rouge, Jacques Sparrow et Don Quichotte et encore d'autres références comme ces livres de Simon Wiesenthal et Sarah Libovici que j'avais lus au milieu des années 80 questionnant la judéité cachée de Christophe Colomb. Et c'est pour parler de la mémoire de ces pirates juifs des Caraïbes qu'il y avait une évidence de poursuivre cette découverte avec les éditeurs de l'ouvrage. Patricia Farazi et Michel Valency, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Watkin.
C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Talmudique. Et si ce livre m'a profondément touché, comme je viens de le raconter, je crois que ce livre est aussi pour vous un coup de cœur éditorial. J'ai l'impression que c'était comme une nécessité qu'il fasse partie du catalogue des éditions de l'Éclat. Quelle est l'histoire de ce livre, Patricia Farazi?
Alors, un coup de cœur, je ne sais pas. En tout cas, ça a été une lecture il y a quelques années, déjà 2 ou 3 ans, qui m'a étonnée beaucoup, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me suis étonnée de me passionner pour un récit de pirate. Parce que, comme vous, j'ai été attirée par les pirates à l'âge de l'adolescence, bien entendu, ou plutôt par les aventures, la mer, les embruns, les combats, etc., un peu garçon manqué sur les bords. Et plus tard, devenant peu à peu adulte, les pirates ne m'ont plus attirée du tout. Ce sont des gens cruels, cupides, sales. Leurs relations aux femmes ne sont pas vraiment celles que l'on désirerait rencontrer au coin de la mer. Mais tout à coup, je tombe sur un livre qui s'appelle, donc aux éditions André Versailles à l'époque, « Les pirates juifs des Caraïbes ». Alors, le mot « pirate », pourquoi pas ?« Juif », quel étonnement !« Caraïbes », bon, c'est déjà beaucoup plus attirant. Et donc, je me retrouve face à un récit historique, érudit, mais en même temps, un véritable récit d'aventure où apparaissent des personnages en couleur, mais qui ne sont pas que des personnages, qui sont des êtres réels, et où tout à coup la piraterie, et le fait d'être corsaire, je ne sais pas, on ne dit pas la corsairerie, je pense, prend une toute autre tournure. Ce n'est plus l'avidité, la cupidité, la seule soif d'aventure, de combat, etc., qui motive ces pirates juifs, mais une nécessité, et même une très dure nécessité, celle de trouver des terres nouvelles, de sauver leur peuple d'une situation abominable, l'inquisition, l'expulsion. Et tout à coup, ils se retrouvent à embrasser un État qui ne leur est pas du tout destiné, dont l'un d'eux est d'ailleurs rabbin, Samuel Pallage, dont nous parlerons plus tard. Ils se retrouvent obligés de trouver un lieu. Et ce lieu, ils vont le chercher très loin. Le Nouveau Monde vient d'être découvert. Et de peu à peu, de 1492 et pendant deux siècles, ils vont arpenter les mers, arpenter les terres, passer d'un continent à un autre, découvrir sans arrêt des terres nouvelles. Et chaque fois qu'ils trouveront un lieu où ils pourront s'établir, se reposer enfin, travailler, faire venir leur famille, chaque fois l'Inquisition les retrouvera. Et bien entendu, aussi cupides que les pirates véritables, l'Inquisition et les puissants voudront s'emparer des biens et de tout ce que les Juifs ont accumulé par leur travail et par leur subtilité. Comme ils le disent si bien, les Juifs sont subtils. Ils sont excellents dans le commerce, donc dès que leur commerce est florissant, on va s'en emparer.
Alors, en plus de cette histoire d'aventure que vous venez de nous raconter, l'attitude de ces pirates, cette dynamique, cette dimension active des Juifs vous a semblé particulièrement importante,
oui,
par rapport à d'autres attitudes dans l'histoire juive.
Oui, j'ai pensé d'abord que l'attitude de ces pirates juifs était une sorte, pas pour moi, hein, c'est totalement personnel, une sorte d'anti-Massada. Alors que face à l'invasion romaine de la Judée, les Juifs, à ce moment-là, ne trouvent pas d'autre solution que d'aller se piéger dans la forteresse de Massada au milieu du désert, dont ils ne pourront pas sortir et dont ils ne sortiront que par la mort, en choisissant la mort et le suicide, ce qui est très étonnant pour des Juifs d'abord, mais où il n'y a pas d'autre solution. Ces Juifs-là, les Juifs du 15e siècle, puis du 16e, vont avoir une immense vitalité et choisir justement cet état qui ne leur est pas du tout habituel. Cet état ne leur est pas habituel et il y a chez eux une manière de choisir la vie, de choisir d'échapper en parcourant des milliers de kilomètres, à une époque où ça n'était pas facile, pour sauver leur peuple. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que leur motivation, c'est une immense, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un don, ils font un don d'eux-mêmes
un
vers la mort.
Un don qui est vers la vie et qui souligne ce verset souvent cité, « Uvacharta b'chaim, tu choisiras la vie ». Alors cette histoire, la piraterie juive, est essentiellement liée à l'expulsion des Juifs d'Espagne, comme vous venez de le dire, et à l'extension de l'Inquisition sur les terres conquises du Nouveau Monde. Est-ce que l'on peut dire, comme l'ont proposé Simon Wiesenthal et Sarah Lebovici que j'ai cité, que le projet de Christophe Colomb de découvrir un nouveau monde avait aussi pour but de trouver une terre de refuge pour les expulsés? Et n'est-ce pas là l'une des raisons de l'insistance de ses recherches? Il ne fit pas moins de 4 voyages, Michel Valency.
Oui, c'est vrai que la thèse d'un Christophe Colomb qui jette l'ancre pour aborder les terres du Nouveau Monde, associée à une situation de marane et associée à la situation des Juifs d'Espagne à l'époque, est une thèse assez connue et assez séduisante. Il est vrai que sur ces caravelles embarqueront un assez grand nombre de Juifs qui échapperont de fait à ce moment-là à l'expulsion et à la conversion contrainte. Et ce départ de Colomb va être effectivement suivi par toute une série d'autres voyages auxquels participeront un très grand nombre de Juifs d'Espagne. Et la découverte du Nouveau Monde se fait avec eux et souvent par eux dans certains lieux. La communauté de Recife au Brésil, par exemple, est une communauté, enfin est la première communauté juive très importante du nouveau continent. La Jamaïque aussi sera une île. On pourra dire quasiment une île juive d'une certaine manière, parce que Colomb y ayant abordé et y ayant déposer son trésor dont on parlera tout à l'heure. D'ailleurs, il le dépose dans les mains d'un chef indien présent sur place. Cette terre sera aussi une terre d'accueil pour des Juifs qui viendront s'y établir. Et ça a été le point de départ effectivement du livre de Chrysler, qui est un historien de la Jamaïque et qui, à partir de ses recherches sur la Jamaïque, découvre un monde qui est celui du judaïsme dans le Nouveau Monde et du judaïsme dans la piraterie. Je peux lire en quelques lignes du début de ce livre. « C'est en feuilletant les pages jaunies du journal de bord d'un pirate anglais du XVIIe que je suis tombé sur cette scène stupéfiante. Lors de l'invasion de la Jamaïque en 1643, William Jackson raconte avoir trouvé la capitale de l'île entièrement déserte, à l'exception, écrit-il, de divers Portugais issus de la nation hébraïque, venus à nous pour solliciter notre protection, en échange de quoi ils promirent de nous montrer où les Espagnols avaient caché leur trésor. »
C'est tout à fait caractéristique de cette île de la Jamaïque. Alors vous avez dit que beaucoup de Juifs ont embarqué avec Christophe Colomb, mais même les voyages eux-mêmes ont été rendus possibles par l'intervention de Juifs maranes. Je pense aussi à ce rabbin Abraham Zacuto, qui était en fait cartographe, sans les cartes duquel il aurait été impossible pour Christophe Colomb de découvrir ces nouvelles terres.
Oui, le judaïsme espagnol est un judaïsme de culture qui développe effectivement à la fois la recherche en cartographie et dans un très grand nombre de domaines, et il participe pleinement de cette découverte du Nouveau Monde à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau, donc, comme vous dites, scientifique par la cartographie. Et on retrouvera ces communautés partout, donc comme je l'ai dit, de Recife, de Jamaïque, jusqu'à ce qui va devenir la Nouvelle Amsterdam et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de New York.
Mais l'idée de Christophe Colomb, puis de ses descendants, n'était-il pas de donner aux Juifs une terre de refuge où l'Inquisition ne pourrait plus exercer ses pouvoirs? C'est-à-dire que c'était une manière d'échapper complètement à l'Inquisition, cette Jamaïque.
Oui, d'autant qu'elle sera occupée à diverses reprises, à la fois par les Anglais, par les Hollandais. Et oui, c'est vraiment une terre de refuge et une terre de mélange sur laquelle l'Inquisition aura du mal à s'installer. Elle sera chaque fois repoussée par Anglais, Hollandais, avec l'aide de la population juive.
I don't really have no ambition, you know. I only have one thing that really likes to happen. I like to mankind live together. Black, white, shiny, anyone. You know what I mean? My richness is life, forever. I wanna jam
it with you. Everybody knew his name. There was that sense that he's about to be massive.
Was like deeply into creation of music.
That's how I think he satisfied his soul.
Rewind. Play.
Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships.
My heart can be hard as a stone.
Minutes
and you're soft as water.
From the bottom list.
My father's a white and my mother black. No, them call me half caste or whatever.
That kind of separation and struggle can make you either go bad or good.
We were all like in shock
that he was so strong and powerful.
Won't you help to sing these songs of freedom?
So listen, we're gonna fight it. Karasta never give up.
Redemption songs.
My life is important to me. Other people's life important.
Redemption songs. These songs of freedom.
Cet extrait du film Bob Marley, ce héros de la Jamaïque qui tisse si bien la légende et la réalité, souligne à quel point les pirates auxquels il fait allusion dans la première phrase de Redemption Song que l'on vient d'entendre sont aussi au cœur de ce tissage de la réalité et de la fiction si fécond pour la littérature dont témoigne la richesse de la bibliographie et filmographie sur les pirates. Et dans ce contexte, on comprend mieux l'apparition de personnages hauts en couleur dans ce livre d'Erward Chrysler, les frères Palache, dont l'un va se rendre célèbre sous le nom du rabbin pirate. Qui est Samuel Palache, Michel Valency? Et d'abord un petit mot sur ce que nous venons d'entendre sur ce chant Redemption Song.
Oui, c'est une des plus belles chansons de Bob Marley. Et c'est vrai que on peut aussi surenchérir sur la fiction, c'est-à-dire que ce judaïsme jamaïcain qui ressurgit plusieurs siècles plus tard dans la figure du rastafarisme et des prières pour Jah et
Zion
qu'on retrouve dans tout le répertoire de Marley. C'est vrai que c'est un...
C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on croyait jusqu'à présent que cette filiation entre judaïsme et Rastafari venait par le mythe de la légende de Salomon qui a épousé la reine de Saba. Mais ce livre, Les pirates juifs des Caraïbes, apporte une nouvelle piste sur le lien entre judaïsme et Jamaïque. C'est le fait que cette île de la Jamaïque a été très tôt, dès le XVIe siècle, habitée par des juifs marins venant d'Espagne et du Portugal. Je crois que ça, c'est important à le souligner.
Ça redouble effectivement. Cette...
Oui, on trouve beaucoup de traces dans les cimetières de la Jamaïque et en particulier de Port-Royal, où on trouve des tombes. Je ne sais pas si je l'ai lu ailleurs ou dans ce livre, où se conjuguent l'étoile de David et puis le signe des pirates, les ossements entrecroisés avec une étoile de David et des noms de juifs espagnols avec des tombes assez anciennes. Il est même question d'une population juive à la Jamaïque à 80% à une époque. Donc on peut penser que à peu près la moitié des habitants de la Jamaïque actuelle sont des descendants de juifs, de maranes, de conversos, ou même carrément de juifs qui sont revenus là pour retrouver, enfin, qui ne sont peut-être même pas passés par la conversion.
Et par ce métissage permanent de cette population, quoi.
Et alors, dans ce métissage permanent de la population, il y a aussi ce métissage entre la réalité et la fiction. Et donc, ce personnage, tout à fait étonnant, Samuel Palache, rabbin et pirate, qui est-il? D'où vient-il? Et que fait-il?
Oui, bon, Palache, c'est vrai que c'est une figure importante de la piraterie. En fait, c'est un corsaire, hein. Il est né au Maroc. Il est aussi inspiré par un autre pirate un peu antérieur qu'on appelait le grand pirate juif Sinan, qui était un des lieutenants de Barberousse et qui a participé à la conquête de Tunis avant que Charles Quint ne la reprenne. Palache est né au Maroc. Il va naviguer entre le Maroc et Amsterdam, où sa famille émigrera à la toute fin du XVe siècle. Il œuvrera à la fois pour le pour le roi du Maroc, le sultan du Maroc, en pillant effectivement les bateaux de l'Inquisition, mais on lui attribue un statut un peu louche et ambigu. Enfin, il a voulu aussi retourner en Espagne. Il y a eu des tractations de Palache avec le gouvernement espagnol pour l'idée d'un retour des Juifs en Espagne, ce qui était une aberration. On l'a accusé d'être un agent double. Il fait partie de ces figures, de ces nombreuses figures de pirates ou corsaires juifs de l'époque. On peut citer aussi les frères Cohen-Henriquez, Abraham et Joseph Cohen-Henriquez, qui eux seront véritablement des pirates et œuvreront beaucoup plus dans les Caraïbes, contrairement à Palache qui œuvrera surtout en Méditerranée. C'est très étonnant comment à cette époque il y a une circulation extraordinaire de lieu à lieu. Palache sera aussi, ira aussi en Angleterre pour plaider la cause des Juifs. Il sera arrêté en Angleterre sur la pression du roi d'Espagne, mais finalement libéré et reçu avec tous les honneurs qu'on pouvait.
Ce qui est très étonnant avec cette histoire de Palache en Angleterre, c'est que
Patricia Faradzi.
Il y a un procès. Son procès a lieu en même temps que celui de Raleigh, le grand corsaire, je crois pas, pirate anglais. Raleigh est condamné à mort et Palache est gracié. On n'a pas d'explication à ça, mais c'est très étonnant. Le juif est gracié et le pirate anglais, lui, est condamné à mort et sa tête va tomber d'ailleurs. Il sera, je sais pas, décapité ou pendu.
Et à la suite de cette libération de Palache, Palache reviendra à Amsterdam où il sera accueilli avec tous les honneurs. Il participe de la fondation de cette communauté juive d'Amsterdam, une des plus importantes d'Europe à l'époque, qui est un lieu de refuge. Un lieu de refuge comme l'est effectivement le Nouveau Monde à l'époque. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant dans toute cette histoire que raconte avec beaucoup de passion Chrysler, c'est un livre vraiment qui se lit comme un roman d'aventure, c'est ce détour par le Nouveau Monde pour la création de ce qui sera le lieu le plus important du judaïsme européen, à savoir Amsterdam à cette époque-là.
Amsterdam qui va devenir tellement importante comme ville qu'elle va recevoir le nom de la Nouvelle Jérusalem. Et je crois que c'est vraiment essentiel. C'est là que la synagogue va être, la grande synagogue portugaise va être construite, qui se termine en 1675. Mm-hmm. D'ailleurs, sur laquelle se clôt le livre, qui se termine lui-même en 1675. Alors, vous avez raison, il y a véritable mouvement très important, et j'ai été très sensible à cela dans le livre, de ces voyages, des allers-retours entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, et même dans le Nouveau Monde, entre le Nouveau Monde du Sud et le Nouveau Monde du Nord, puisque lorsque les Portugais vont reprendre le Brésil aux Hollandais, les Juifs qui étaient au Brésil vont devoir quitter, à cause de l'Inquisition, quitter le Brésil, et ils vont remonter vers le Nord et ils vont aller s'installer à la Nouvelle Amsterdam, c'est-à-dire à New York.
Oui,
les premiers Juifs à New York sont des Portugais,
de créer, en effet, oui.
Et ils vont contribuer à créer. Et on voit que ces pirates et tous ces mouvements de l'Inquisition et de ces allers-retours des communautés juives ou des Juifs d'un bord à l'autre de l'océan ont contribué aussi à l'expansion du commerce international.
C'est vraiment à ça que, c'est à ça qu'a servi, et c'est dans cette perspective-là que les Juifs d'Espagne vont partir vers le Nouveau Monde. C'est vrai que on a une vision un peu, linéaire de cette expulsion des Juifs d'Espagne qui vont finalement, ils sont expulsés, et on a l'impression que, avec une certaine passivité qu'on a reproché au judaïsme par ailleurs et même pendant la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que cette passivité juive les transporte d'une diaspora à l'autre. Je crois que non, c'est ce qu'a souligné Patricia Faradzi tout à l'heure. Ce choix de la vie va les transporter justement vers l'aventure, vers l'exploration et vers le Nouveau Monde qui sera le passage obligé vers la création d'Amsterdam.
Ce qui ne se fera pas sans mal, parce que ce commerce international qui est en train de, de prendre place est aussi à chaque fois la raison pour laquelle on les expulse, on leur vole tout ce qu'ils ont. Il faut rappeler quand même qu'à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, l'Inquisition les rattrape jusqu'au XVIIe siècle.
C'est un des aspects répétitifs du
livre.
Et
après, bien entendu, cela sera encore utilisé au cours des siècles par tous les antisémitismes possibles.
Oui, mais avec cette leçon prise à ce moment-là de cette volonté de choisir la vie.
De choisir la vie,
de choisir de fuir, de s'installer ailleurs. Et je trouve vos remarques à l'un et à l'autre éminemment intéressantes et importantes parce que ça me rappelle une relation qu'il y a entre pirates et judaïsme d'une façon un petit peu différente qui remonte à quelques siècles avant. C'est l'histoire qui est racontée par Ibn Daoud dans son Sefer HaKabbalah, son livre de la tradition, qui est en fait un livre d'histoire, et qui raconte que quatre rabbins qui partaient de Bari en Italie pour retourner en Babylonie ont été faits prisonniers par des pirates, qui n'étaient pas des pirates juifs, mais qui les ont vendus. Et un a été vendu à Alexandrie, l'autre à Kérouan, le troisième à Cordoue, et le quatrième apparemment en Italie pour remonter s'installer en Allemagne. Et cette légende des quatre rabbins vendus par les pirates est la naissance de la diaspora nouvelle qui fait que le judaïsme a pu s'installer ailleurs que la Babylonie, puisque le centre n'était plus le centre réel du sol, mais le livre transporté, puisque c'était des maîtres du Talmud. C'est une très belle légende qui est rapportée par Daniel Boyarin dans un très beau livre qui s'appelle « Une patrie portative ». Et je crois que cela mérite aussi d'être signalé, parce que on a l'impression que les pirates ont une fonction de dynamisante un peu de l'histoire, que ça soit dans ce 12e siècle ou dans ce 16e siècle. Il y a une chose très importante, c'est que dans cette Jamaïque dont on a parlé, à chaque fois que les personnes y sont arrivées, que ça soit les Anglais, que ça soit les Portugais, que ça soit les Espagnols, enfin tous ceux qui sont arrivés à la Jamaïque, ont tous voulu rechercher le trésor. Rechercher le fameux trésor que Christophe Colomb aurait laissé Patricia Farazzi.
Oui, alors en 1494, Christophe Colomb découvre la Jamaïque et on commence à entendre parler de cette mine d'or. On en entendra parler pendant plusieurs siècles. Bien entendu, personne ne la trouvera jamais. On ne saura jamais si elle a existé ou pas. En tout cas, la légende se construit autour de ce trésor et de cette mine d'or. Quand Colomb est obligé de quitter la Jamaïque à cause d'une mutinerie, il confie son or à son ami, le chef de la tribu indienne, Huero, et cet or disparaît. Au cours des deux siècles suivants, plusieurs fois, je ne dirais pas à chaque fois parce que je ne me souviens plus, mais en tout cas plusieurs fois, ce trésor de Christophe Colomb va servir de monnaie d'échange qui est étrange puisqu'il n'existe, on ne sait pas s'il existe, mais va servir à divers pirates juifs et autres juifs du Nouveau Monde. Chaque fois qu'ils auront besoin d'un puissant, d'un gouvernement pour les aider à rejoindre la Jamaïque, à trouver des terres ou à échapper à l'Inquisition ou à se mettre, si on peut le dire, les puissants dans leur poche, ils parleront de ce trésor. Ce trésor va devenir le moyen pour eux d'échapper à toutes les catastrophes et à toutes les expulsions dont ils sont menacés. Il va ressurgir sans arrêt et jusqu'en 1663, je vais vous lire quelques lignes du livre, où on envoie le roi d'Angleterre envoie 6 chercheurs de trésors, 6 pirates juifs. Et donc, c'est ainsi qu'en mars 1563, le Great Gift, le nom du bateau, fit son entrée à Port-Royal avec sur la proue un trio de pères et de fils chargés de découvrir les très convoitées mines d'or. À bord se tenaient Abraham et Jacob Cohen, Benjamin et Joseph Bueno Mesquita, Abraham et Isaac Israël, une lourde chaîne en or autour du cou. Était-ce nos chercheurs d'or juifs? Le maître du port, William Beeston, en avait en tout cas la ferme conviction, et sa suspicion fut immédiate. Ainsi qu'il l'écrivit dans son journal, 6 juifs sont arrivés, avec un riche cargo, sous le prétexte spécieux de se mettre en quête d'un gisement d'or qui leur aurait soi-disant été révélé du temps de la domination espagnole. Mais cet or n'est qu'une ruse, leur véritable objectif est de s'insinuer dans le commerce de l'île. Eh bien, il a parfaitement raison, William Beeston. Ce tort n'est qu'une ruse, une sorte de golem qui est censé sans arrêt sauver les juifs et qui les sauve la plupart du temps et qui entretient toutes sortes de mythes et de passions et a toujours été utilisé en attisant la convoitise des puissants.
Alors, on a presque l'impression, en vous écoutant, que le trésor, on pourrait se demander, en lisant ce livre de Edward Chrysler, est-ce que le trésor n'est pas avant tout, et déjà la littérature que ces histoires de pirates, corsaires et flibustiers ont produit au fil des siècles, comme dans la fable du laboureur et ses enfants, offrant à l'humanité ce souffle vital que sont les histoires, les légendes et les fictions.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait de ce livre, qui est un livre d'érudition et d'histoire, une véritable et passionnante histoire de chasse au trésor, d'une mer à l'autre.
Merci Patricia Farazzi et Michel Valenci, merci pour votre travail d'éditeur qui est un véritable travail d'explorateur et de découvreur de trésors et de pépites que vous nous faites partager, comme ce livre d'Edward Chrysler dont nous avons parlé aujourd'hui, Les pirates juifs des Caraïbes. Merci pour votre passion et pour tous ces voyages qui éclaireront sans aucun doute ces fêtes de fin d'année qu'avec toute l'équipe de Talmudic, Françoise-Anne Ménager, Dany Journaud et aujourd'hui Marie Le Peintre à la technique, nous vous souhaitons excellente, illuminée de joie et de l'éclairage. Merci encore.
Merci Marc Alawaknin, et merci à toutes.
Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne fête de Noël et à la semaine prochaine.